Vous écoutez, on lit pour vous.
Le meilleur et le pire des villes. Un texte de Myriam Demers-Lemay paru le 19 mai 2023 dans le magazine Curium. En mars dernier, le rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, soulignait l'urgence de repenser les villes pour s'adapter au changement climatique. Quelles villes nous inspirent? Lesquelles nous désolent? Gonflées par l'exode rural et l'accroissement de la population mondiale, les villes consomment dorénavant 75% de l'énergie de la planète et émettent 70% des émissions de gaz à effet de serre. Pour redéfinir la ville de demain, les urbanistes doivent viser plusieurs objectifs. Préserver la biodiversité, faire baisser la température de plusieurs degrés, améliorer le bien-être de la communauté et générer une prise de conscience. Tout cela en s'adaptant à chaque contexte social et géographique. Faut que ça roule. Copenhague, le paradis du vélo. Dans la capitale du Danemark, le vélo est le principal moyen de transport. Petits et grands enfourchent leurs bicyclettes pour se rendre au boulot ou à l'école. Écolo, sain et rapide. Tout a été aménagé pour donner envie de pédaler. La ville compte 1000 km de pistes cyclables, incluant la célèbre voie aérienne Cykelslangen, le serpent à vélo, inaugurée en 2014. Ici, les parcs et les espaces verts deviennent des échangeurs pour cyclistes. Des passerelles spéciales sont aménagées pour raccourcir les trajets. Aux intersections, des repose-pieds adoucissent l'attente au feu rouge tout en évitant les chaussures mouillées. Les parcs de stationnement sont nombreux et même pas besoin d'attacher son vélo. Atlanta, la dictature de l'auto. Les banlieues d'Atlanta comptent 12 fois plus d'habitants-habitantes que le cœur de la ville. Le déséquilibre est si grand que la métropole américaine est devenue le symbole de l'étalement urbain. Ces immenses banlieues grignotent peu à peu les écosystèmes et les terres agricoles. La voiture est indispensable pour s'y déplacer puisque la région est dépourvue de transports en commun efficaces. Comme Atlanta, la plupart des villes nord-américaines très étendues sont conçues pour l'automobile. Pourrait-on favoriser la densification urbaine? Plusieurs urbanistes préconisent ainsi de remplacer l'habitat individuel par de l'habitat collectif, qui réunit plusieurs logements dans un même bâtiment. Au programme également, améliorer l'efficacité des transports en commun, tout en laissant plus de place aux espaces verts et aux piétons. Medellín, la vie en vert. En Colombie, Medellín a investi dans la création de 30 corridors verts. Ainsi, 18 rues et 12 cours d'eau ont été transformés en jardins, en murs verts et en espaces de verdure. Au total, plus de 8300 arbres et 350 000 arbustes ont été plantés. Ces milieux purifient l'air de la métropole tout en créant de nouveaux espaces collectifs. Des centaines d'emplois ont ainsi été créés en horticulture. Des dépotoirs et des lieux abandonnés ont été réinvestis par les familles et les enfants. Cette initiative, bardée de prix internationaux, réduit la température urbaine de 2 degrés centigrades en moyenne, rafraîchissant. La végétalisation des milieux urbains fait chuter le thermomètre de 1 à 4,7 degrés centigrades selon un rapport de l'Institut national de la santé publique du Québec de 2021. Alors que les vagues de chaleur augmentent en fréquence et en intensité, cette climatisation naturelle devient un élément incontournable de la ville durable. Mumbai, catastrophe en série. Des gratte-ciels, des autoroutes, des espaces pavés. Le béton s'étend à perte de vue à Mumbai, en Inde. Cela en fait l'une des villes comptant le moins d'espaces verts dans le monde. Le problème? Le béton augmente les îlots de chaleur, créant de sérieux problèmes de santé pour les personnes âgées ou vulnérables. Le béton réduit aussi la perméabilité du sol lorsqu'il pleut. Ces dernières années, Mumbai a vécu des vagues de chaleur records, des inondations, des coulées de boue mortelles et une augmentation des problèmes de santé liés à la mauvaise qualité de l'air. Éponge ta ville. Imperméabiliser une tente, primordial pour passer une nuit au sec, mais pour la ville, c'est l'inverse. Les surfaces de béton imperméables augmentent les risques d'inondation. La ville éponge utilise le paysage pour retenir l'eau à la source. C'est le concept de l'heure en urbanisme. Au lieu que la pluie coule sur la chaussée, ce sont les sols qui se gorgent d'eau. Résultat, moins d'inondations, moins de glissements de terrain et moins d'eau à traiter à l'usine. Pour améliorer le coefficient spongieux d'une ville, oui, ça existe, les urbanistes multiplient les zones de verdure. On crée des parcs, on ajoute des jardins aux trottoirs et dans les stationnements. On conçoit même des étangs et des ruisseaux pour accueillir l'eau des précipitations. C'était « Le meilleur et le pire des villes », un texte de Myriane Demers-Lemay, paru le 19 mai 2023 dans le magazine Curium.
Prendre soin de soi, quatre gestes bien-être. Un texte de Marie Bernier, paru le 14 mars 2023 dans le magazine Châtelaine. Dans le tumulte du quotidien, on se sent souvent débordé, courbaturé, épuisé. Pour se requinquer, rien de mieux que ces quatre gestes pour réduire le stress, même s'ils ne sont pas révolutionnaires. Premier geste, parler à une amie ou quelqu'un qu'on apprécie. Appeler un être cher. Ce geste tout simple a des effets positifs sur notre bien-être. En effet, une seule conversation de qualité avec un ami réduit la sensation de stress à la fin de la journée, selon une étude réalisée par l'Université du Kansas. Dans le cadre de cette recherche scientifique, 900 participants étaient invités à entrer en contact avec l'un de leurs amis une journée précise. Différents types de discussions étaient proposés. Certains devaient plaisanter, d'autres formuler des compliments ou lancer une discussion plus sérieuse, entre autres. Le soir venu, les participants évaluaient leurs sentiments de stress, de connexion, d'anxiété, de bien-être et de solitude. Résultat, ils obtenaient tous de meilleurs scores que le groupe témoin, et ce, quel que soit le type de conversation qu'ils avaient eue. Voilà qui donne envie de décrocher le téléphone. Mais pour parler de quoi au juste? Étonnamment, le sujet de la conversation n'a pas vraiment d'importance, explique le professeur de communication Jeffrey Hall, qui a co-signé l'étude. En effet, c'est le simple fait d'échanger avec un proche qui remonte le moral des individus. Je crois que la raison pour laquelle avoir des conversations significatives nous aide à nous sentir mieux est qu'elles répondent à notre besoin d'appartenance, poursuit-il. Tout le monde a besoin de se sentir accepté et considéré. Une communication de qualité nous permet de nous sentir connectés et moins stressés, car elle répond à un besoin que nous avons tous. Fait non négligeable, le chercheur a noté que les discussions en personne étaient associées à de meilleurs niveaux de bien-être que les interactions par visioconférence ou sur les médias sociaux. Deuxième geste, se relaxer au spa. Une fatigue dont on ne vient pas à bout? Un coup de blues à chasser? Ou simplement l'envie de décrocher? Toutes les raisons sont bonnes pour s'offrir une journée de détente au spa. C'est un moment privilégié pour se recentrer sur soi. Un coup de cœur. Le Strom Spa nordique de l'île des Sœurs. On s'étonne chaque fois de trouver cette oasis de calme à une dizaine de minutes du centre-ville de Montréal. L'illusion de se trouver en pleine nature est parfaite grâce au lac des Battures qui borde les installations. On peut passer des heures à effectuer le circuit d'eau extérieur, à alterner entre les bassins chauds et les bains froids. Vrai qu'il faut un peu de courage pour s'immerger dans l'eau glacée, mais la relaxation qui s'ensuit au coin du feu, sous une yourte ou levée dans une chaise suspendue, n'est que plus délicieuse. Puisqu'on est là pour se gâter, on peut évidemment ajouter un massage à l'expérience. Si la météo le permet, des massothérapeutes exercent même sous une tente sur pilotis tout près de la berge. Autre petit luxe à découvrir, le restaurant du Strom, baptisé Nord, qui vaut à lui seul le détour. Des plats d'inspiration scandinave y sont préparés avec des ingrédients issus de notre forêt boréale. Le souvenir du dessert dégusté, un financier au sarrasin et aux champignons sauvages, suffit pour nous replonger dans un état d'extase. Troisième geste, recevoir et donner un massage maison. Si on ne peut pas aller au spa, on fait venir le spa à nous. On prend congé un jour de semaine pendant que les enfants sont à la garderie ou l'école. Des bougies, du bain moussant, une musique relaxante. Voilà ce qu'il faut pour s'offrir un après-midi de spa à domicile. Pourquoi ne pas faire participer son ou sa partenaire? On lui demande de se glisser dans le rôle du massothérapeute. Pour une expérience optimale, sans voile huileux, on utilise les pains de massage de Luche à base de beurre de cacao et de karité. On le fait glisser sur la peau, sur laquelle il laisse un filtre soyeux parfumé à la lavande. La sensation est aussi agréable qu'avec une huile à massage traditionnelle. Et après, bien sûr, on rend l'appareil à l'être aimé. Quatrième geste, se déconnecter pour une journée. L'époque est à l'hyperconnectivité. On travaille, on se divertit, on magazine, on s'informe et on s'entraîne en ligne. Or, passer plus de 4 heures par jour devant un écran à des fins de loisirs est associé, entre autres choses, à un surcroît de détresse, à une santé physique affaiblie et à des problèmes de sommeil, selon une étude montréalaise. Et si on prenait congé de son téléphone pour une journée? Le mouvement « Pose ton écran », qui fait la promotion d'une utilisation saine et équilibrée des écrans, propose quelques trucs pour relever le défi d'une journée déconnectée. On peut inviter les membres de sa famille à participer en laissant eux aussi de côté leurs appareils pendant 24 heures. Il sera ainsi possible de passer du temps ensemble tout en limitant les tentations. Et pour éviter le « FOMO », « fear of missing out » ou la peur de manquer quelque chose d'important, mieux vaut planifier sa journée avec des activités zéro techno qu'on aime, comme une randonnée, de la lecture, une soirée de jeux de société. Petit rappel, la joie sera plus intense sans les notifications pour nous interrompre. Au terme de l'expérience, on constatera peut-être à quel point la technologie a une emprise importante sur sa vie. On peut aussi en profiter pour faire du ménage parmi les applications qui nous gobent trop de temps ou pour désactiver certaines notifications. Et qui sait, la journée sans écran deviendra peut-être une tradition annuelle. C'était « Prendre soin de soi, 4 gestes bien-être », un texte de Mary Bernier, paru le 14 mars 2023 dans le magazine « Châtelaine ».
La prise en charge des aînés en France. Par Delphine Roy, directrice du programme Santé et autonomie, Institut des politiques publiques, PSE, École d'économie de Paris. Paru dans Reflet, juin 2023. En France, selon qu'on retient une définition stricte ou plus large de la perte d'autonomie, on compte de 850 000 à 2,6 millions de personnes en perte d'autonomie sur les 18 millions d'habitants de 60 ans ou plus. C'est donc de 6 à 14 % d'entre eux qui, à des degrés divers, ont besoin d'aide, dans les actes de la vie quotidienne. L'offre actuelle répond-elle à leurs besoins? Quels sont les défis des politiques publiques aujourd'hui? La France est connue pour être un pays où l'on recourt assez fréquemment aux établissements. Au-delà de 75 ans, 8 % des personnes âgées vivent en établissement et cette proportion passe à 21 % parmi les 85 ans ou plus. Ce sont ainsi 600 000 personnes environ qui y sont accueillies en hébergement permanent, essentiellement dans l'un des 7 400 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, que compte le territoire français. Les EHPAD sont des établissements médicalisés en partie financés par l'assurance maladie. Les autres personnes âgées en perte d'autonomie vivent soit à domicile, soit dans des habitats intermédiaires comme les résidences autonomie ou les résidences services seniors. Encore peu nombreuses, mais qui se développent rapidement. Pour les aider à financer les aides dont ces personnes ont besoin, la principale prestation est l'allocation personnalisée d'autonomie, APA. Plus d'un tiers des personnes âgées de 85 ans ou plus en bénéficient. 800 000 à domicile, 500 000 en établissement, pour un montant total de 6,3 milliards d'euros. En établissement, il existe d'autres prestations pour aider les personnes à financer leur hébergement, comme les allocations logement ou l'aide sociale à l'hébergement. Car le prix moyen d'une place en EHPAD, 2 000 euros en 2018, est nettement supérieur à la pension moyenne d'un retraité français, 1 500 euros en 2020. Mais l'aide sociale à l'hébergement est récupérable sur succession, ce qui entraîne un non-recours important. La prise en charge existe donc à domicile et en établissement, avec des limites de chaque côté. Les établissements coûtent très cher et la concentration de personnes très âgées et en mauvaise santé fait que les aînés appréhendent de devoir y vivre un jour. Mais d'un autre côté, vivre à domicile coûte également très cher si l'on doit avoir recours à de nombreuses intervenantes professionnelles. Pour la plupart des retraités, rester à domicile lorsque la perte d'autonomie s'aggrave n'est possible qu'à condition que des personnes de leur entourage, conjoints, enfants, s'investissent énormément dans l'aide au quotidien, parfois au détriment de leur propre santé. Ce coût-là est invisible, car il ne se chiffre pas en euros, mais il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, ce système, déjà imparfait, se heurte à un double défi. Premièrement, le défi démographique. L'arrivée des générations nombreuses du baby-boom, aux âges où la perte d'autonomie devient plus fréquente, va créer un besoin d'aide énorme. Toutes les projections anticipent une augmentation de 20 à 25 du nombre de personnes âgées dépendantes d'ici 2030, soit dans 7 ans. C'est peu de temps pour former et recruter le personnel nécessaire ou pour construire des établissements. Or, si on gardait la même répartition entre domicile et établissement, il faudrait pouvoir accueillir 110 000 personnes de plus en EHPAD d'ici 2030. Les résidences autonomie et les résidences seniors sont présentées comme des solutions potentielles permettant d'éviter le placement en EHPAD tout en apportant de l'aide et en favorisant la prévention. Mais leur nombre est encore trop limité. Il faudrait développer l'offre de façon massive si on veut pouvoir y accueillir les 110 000 personnes pour lesquelles les places en EHPAD vont manquer et qui sont majoritairement très peu autonomes. Deuxièmement, à la vague démographique imminente s'ajoute le sujet d'un maintien à domicile accru. On parle d'un virage domiciliaire à prendre pour permettre au plus grand nombre de rester chez soi, même avec un fort besoin d'aide. On dit « virage domiciliaire » par analogie avec le « virage ambulatoire » qui guide la politique hospitalière depuis le milieu des années 2010. L'épidémie de COVID-19, durant laquelle les résidents de HPAD se sont retrouvés isolés de leur famille, puis la publication début 2022 du livre-enquête « Les fossoyeurs » du journaliste Victor Castanet et le scandale Orpea qui l'a suivi ont renforcé cette orientation. Mais pour aider à leur domicile, les aînés de la génération du baby-boom, qui ont par définition moins d'enfants que leurs propres parents, il faudra former, recruter et rémunérer un grand nombre d'aides à domicile. Or, le secteur des services à domicile est économiquement fragile et peine déjà à recruter. Une amélioration des conditions de travail et une augmentation des salaires semblent indispensables. Restera donc la question du financement, car tout cela va nécessairement coûter très cher, à domicile, en établissement ou dans les habitats intermédiaires. La question d'une assurance dépendance obligatoire, toujours remise à plus tard, pourrait bientôt se reposer dans le débat public. C'était la prise en charge des aînés en France par Delphine Roy, directrice du programme Santé et autonomie, Institut des politiques publiques, PSE, École d'économie de Paris. Publié dans Reflet, juin 2023.
Lorsque la neige s'en va. Un texte d'Alexis Aubin, paru le 13 avril 2023 dans le magazine Nouveau projet. Le Pérou a perdu 51% de sa surface glaciaire au cours des 50 dernières années et le phénomène menace de s'accélérer. Le photojournaliste Alexis Aubin s'est rendu sur place pour dresser le portrait intimiste d'un rituel en péril au cœur des croyances ancestrales des peuples andins. Ce reportage a été rendu possible grâce au Fonds québécois en journalisme international. Rassemblés en prière au sommet du mont Colquépuncou, des hommes de la nation Urubamba attendent le lever du soleil. La fourrure de leurs habits cérémoniels évoque les Ukuku, ces personnages mythologiques mi-humains, mi-ours. Le paysage environnant est dominé par les lichens, les herbes basses et les pierres. Au loin, les restes du glacier Colquépuncou rappellent qu'autrefois, ce territoire sacré était aussi couvert de neige. 4 jours plus tôt, à l'aube des célébrations du Koyuriti, le festival des neiges, adultes, enfants et personnes âgées de partout au pays ont marché le long de la route pentue de 10 km traversant la vallée du Sinakara. Puis, comme le veut la tradition, les Ukuku ont repris la route tard dans la nuit et ont escaladé la montagne jusqu'à l'aurore afin d'accomplir des rituels en l'honneur du sommet enneigé. Après une marche de 10 km depuis le village de Mahuayani, d'où ils ont apporté costumes, instruments de musique, tentes et nourriture, des Ukuku de la nation Paucartambo arrivent au sanctuaire à l'aube. Ils s'agenouillent et prient, saluant la Cruz Pata, la croix qui marque l'entrée du lieu sacré. Ces danseurs sont les gardiens de la vallée et les protagonistes du festival. Jusqu'en 2003, les Ukuku rapportaient de cette ascension des blocs de glace et les plaçaient près de l'autel du temple du seigneur de Koyuriti en guise d'offrande. Mais la disparition progressive du glacier Colquépuncou a forcé l'interdiction de cette pratique qui, selon les croyances, influence les récoltes et le bien-être des communautés dans la région. L'eau est pour les peuples andins un être à part entière qui éloigne les maux et libère des péchés. Les pèlerins-pèlerines se contentent désormais de remplir de petites bouteilles d'eau du ruisseau alimentée par ce qu'il reste du glacier. inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO en 2011, le Festival des neiges est l'une des plus anciennes et des plus grandes manifestations culturelles des Andes. Son origine demeure mystérieuse, mais on sait que la vallée du Sinacara était un lieu de culte avant l'arrivée des Européens et même des Incas. C'est sous le catholicisme que le Coyuriti a acquis sa forme et son ampleur actuelle. Un événement syncrétique où s'entrelacent christianisme et mythologie andine. Ainsi, le pèlerinage repose aujourd'hui sur un mythe originel qui raconte l'apparition, au pied du mont Kolkepunku, de Manuelito, la réincarnation du Christ. Le pèlerin Nicanor Cabana aide son épouse Ilma Quispe à monter sur une pierre au bord d'une lagune formée par la fonte du glacier Kolkepunku. « Tout a changé ici, » déclare-t-il. « Avant, il y avait de la neige partout. Elle allait jusqu'au sanctuaire. Maintenant, il ne reste que des pierres. » Le mont Kolkepunku surplombe le sanctuaire du seigneur de Coyuriti. Le Pérou compte 18 chaînes montagneuses enneigées qui abritent un total de 2259 glaciers. Traditionnellement, les Quechuas les appellent les Apus et les considèrent comme des divinités. Autrefois, les Ukuku se repéraient facilement dans la nuit grâce à l'albédo du glacier, d'autant que le festival se tient lors de la pleine lune. Mais l'éclairage artificiel devient aujourd'hui de plus en plus nécessaire. Avant la pandémie, près de 100 000 pèlerins-pèlerines de 8 nations différentes s'y réunissaient chaque année, 58 jours après le dimanche de Pâques. Le festival a été suspendu pendant 2 ans, avant de reprendre dans une formule restreinte. En 2022, il a réuni environ 5 000 personnes et un maximum de 100 Ukuku par nation ont été admis sur les lieux saints. Entre colonisation, réchauffement climatique et pandémie, les coutumes liées au festival du seigneur de Coyuriti évoluent et s'adaptent dans une ferveur qui, jusqu'à maintenant, a assuré son existence. Mais l'aggravation de la crise climatique menace plus que les pratiques spirituelles. Les glaciers sont parmi les principales sources d'eau douce des Andes et leur fonte, qui s'accélère chaque année, laisse présager un torrent de problèmes hydriques, agricoles et énergétiques dans la région. Photojournaliste indépendant, Alexis Aubin a travaillé pour de nombreux médias et organismes au Canada comme à l'étranger. Depuis 2012, il partage sa vie entre le Québec et l'Amérique latine pour éclairer différents enjeux sociaux et humanitaires. C'était « Lorsque la neige s'en va », un texte d'Alexis Aubin, paru le 13 avril 2023 dans le magazine « Nouveau projet ».